Radio Prague, les informations.
Stéphane Füle, commissaire européen chargé de l'élargissement. Le premier congrès du parti Top 09 commence à Prague. La République tchèque a sa 8e victime de la grippe porcine. Bonjour, José Manuel Barroso a présenté à Bruxelles les 27 nouveaux commissaires européens. Stéphane Füle, candidat de la République tchèque, sera chargé de l'élargissement. Outre les questions concernant l'élargissement de l'Union européenne, il aura en charge aussi la politique de voisinage. C'est pour Prague un portefeuille plus fort que prévu. Le prédécesseur de Stéphane Füle, Vladimir Spidla, avait en charge l'emploi, les affaires sociales et l'égalité des chances. Ce vendredi a commencé le premier congrès du nouveau parti Top 09 qui a été constitué en été dernier. C'est une première occasion pour ce parti pro-européen de droite de se présenter réellement au public. Karel Schwarzenberg, ex-chef de la diplomatie, est le candidat principal au poste de chef de Top 09. Miroslav Kalousek, ex-chef des finances et ancien membre influent du parti chrétien-démocrate, est une autre figure marquante et un des fondateurs de cette nouvelle formation. Le déroulement de la grippe causée par le virus H1N1 est bien plus grave que celui d'une grippe normale de la saison. C'est une déclaration faite jeudi par le professeur Roman Primula, président de l'association vaccinologique tchèque. D'après lui, et contrairement à ce qu'on avait tendance à prétendre jusqu'ici, les dernières analyses démontrent une plus grande fréquence de cas de grippe porcine grave ou de décès suite à ce virus. Roman Primula s'attend à de nouvelles vagues pandémiques. À ce jour, 8 cas de décès causés par le virus H1N1 ont été recensés en République tchèque. Le virus a été diagnostiqué chez 777 personnes. On en reparle tout de suite dans les faits et événements. Toujours dans la santé, selon une étude menée par les étudiants de la faculté de médecine de l'université Charles, plus de la moitié des Tchèques seraient favorables à une interdiction totale de la cigarette dans les restaurants. Le sondage a été réalisé sur un échantillon de 830 clients de restaurants. Les deux tiers des non-fumeurs et un tiers des fumeurs se prononcent pour cette interdiction. Les étudiants ont aussi évaluer les effets négatifs du tabagisme passif, notamment sur les employés, le personnel de la restauration. La chanteuse de jazz canadienne Diana Krall s'est produite jeudi soir en concert à Prague devant une salle archi-comble du centre des congrès. Le public enthousiaste lui a accordé de longues standing ovations. Prague était l'une des dernières escales de la tournée européenne de la chanteuse qui se présentera ce week-end en Russie. Diana Krall s'était déjà produite à Prague il y a 5 ans. Enfin, on termine avec la météo. C'est un temps à demi couvert qui règne sur la majeure partie du territoire ce vendredi, jour de la fête de toutes les Xéniers, selon le calendrier local. Les températures restent largement supérieures aux normales saisonnières et varient entre 9 et 12 degrés pour les maximales. Une légère baisse des températures est prévue pour la semaine prochaine. Voilà, c'était le bulletin d'information présenté par Anne-Claire Veluire. Tout de suite, la suite de l'information sur Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anne-Claire pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de ce dernier tour d'horizon de l'actualité tchèque de la semaine. Un journal au cours duquel nous ferons d'abord le point sur l'évolution de la grippe porcine en République tchèque. La situation n'est pas catastrophique, mais elle fait néanmoins beaucoup parler d'elle, comme nous l'entendrons dans un instant. Rappel historique ensuite, il y a très précisément 20 ans de cela, la Tchécoslovaquie entrait dans une grève générale avec la manifestation des étudiants 10 jours plus tôt. Il s'agit de l'une des deux dates clés qui ont abouti en novembre 1989 à la chute du régime communiste. Nous reviendrons sur cette période d'euphorie dans quelques instants. Enfin, nous terminerons, comme le plus souvent, sur une note culturelle avec l'exposition à Prague d'une réplique tissée de la célèbre tapisserie de Bayeux. Mais en attendant de développer tous ces titres, très bonne écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, la grippe porcine fait donc de nouveau beaucoup parler d'elle en République tchèque, comme nous l'explique Alena Gebertova.
La grippe porcine est plus grave que la grippe classique. Cette constatation, qui est en contradiction avec les récentes affirmations de spécialistes et de médecins tchèques, a été faite par le chef de l'association vaccinologique, Roman Primula. Il ajoute.
En ce moment, on ne peut pas parler de la grippe porcine. Cette situation ne concerne pas encore le monde entier, mais désormais on trouve des noyaux où l'apparition du virus H1N1 est plus importante que celle de la grippe saisonnière. C'est surtout la mutation du virus qui peut causer de sérieuses complications.
La République tchèque a recensé jeudi sa 8e victime du virus H1N1, une femme de 48 ans qui ne souffrait pas précédemment de problèmes de santé. Au jour de jeudi, la grippe avait infecté en Tchéquie très précisément 777 personnes, mais l'étendue de la contamination semble bien plus grande, car les tests ne concernent qu'une partie des cas suspects. En tout cas, l'épidémie s'accélère avec plus de 140 nouveaux cas enregistrés en une semaine. La campagne de vaccination contre la grippe qui concerne en ce moment les personnes adultes a démarré en début de semaine. Son déroulement n'est cependant pas toujours facile, car certains malades ainsi que certains membres du corps médical et du personnel hospitalier refusent de se faire vacciner de peur des effets secondaires ou des réactions allergiques. La vaccination des enfants de plus de 10 ans devrait commencer dans 2 semaines environ après l'avis du gouvernement. La grippe H1N1 s'est infiltrée aussi dans le monde du sport à cause de l'infection de 5 footballeurs du club de FK Teplice, leader actuel du championnat tchèque, par le virus. La rencontre contre Plzeň, qui figurait au programme de la journée de championnat de ce week-end, a été remise à plus tard.
Dans la suite des événements qui ont abouti en novembre 1989 à la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie, deux dates revêtent une importance particulière. Le 17 novembre, d'abord, jour de l'intervention brutale de la police contre la manifestation des étudiants, puis la grève générale qui s'est tenue le 27 novembre, il y a donc tout juste 20 ans. Rappel historique signé Václav Richter.
Ouverture d'un débat démocratique à tous les niveaux, démission des dirigeants politiques responsables de la crise dans la société et des brutalités policières du 17 novembre, libération des prisonniers politiques et liberté de la presse. Telles étaient les revendications de ceux qui ont participé à la grève générale du 27 novembre 1989. Bien qu'une partie des revendications des grévistes, et notamment la démission des dirigeants communistes avec leur chef Miloš Jakeš, avait déjà été accomplie le 25 novembre, pratiquement tous les comités de grève dans les entreprises se sont prononcés pour cette grève générale. On discutait néanmoins de la forme que cette protestation massive devait prendre pour ne pas nuire à l'économie, à la santé et à l'approvisionnement de la population. Cependant, selon Jiří Suk de l'Institut de l'Histoire Contemporaine, le régime totalitaire n'avait pas encore rendu les armes.
Státní bezpečnost od samého rána se snažila nějakým způsobem ještě.
Depuis le matin, la police politique, la STB, cherchait encore à renverser les tendances dans l'opinion et à discréditer les leaders du Forum civique et Václav Havel. Ses membres lançaient des voitures, des tracts diffamatoires cousus de mensonges. Il est évident que la police secrète travaillait encore intensivement et que ses objectifs n'avaient pas changé. Elle s'apprêtait toujours à discréditer le mouvement civique.
Pourtant, de midi à 14h le 27 novembre, la grève a été largement suivie. Le Forum civique, mouvement spontané qui réunissait tous les éléments de la société désirant le changement, a appelé les gens à apporter le plus grand nombre possible de drapeaux tchécoslovaques, et ces drapeaux flottant au-dessus des grévistes donnaient un caractère quasi officiel aux foules qui avaient envahi la rue. Jiří Suk.
Selon un sondage d'opinion de cette époque, la moitié des citoyens de Tchécoslovaquie et la majorité des usines étaient entrés en grève. Évidemment, nous n'aurons jamais le chiffre exact, mais les photos et les documents filmés de ces événements démontrent que la grève a été vraiment massive et que des habitants de toutes les villes d'une certaine importance et même dans beaucoup de petites villes y ont participé. C'était un triomphe incontestable qui a confirmé l'orientation adoptée et réalisée par le Forum civique.
Rien que sur la place Venceslas, dans le centre de Prague, quelques 250 000 personnes s'étaient rassemblées. Des manifestations et des meetings ont été organisés dans tout le pays. Les prétendus dommages économiques avec lesquels les milices officiels avaient cherché à décourager les grévistes ont été finalement négligeables. D'après Jiří Suk, la grève attirait également l'attention des habitants sur deux grands thèmes politiques.
La
grève a été aussi un tournant parce que le Forum civique a lancé deux slogans principaux qui planaient sur les foules. Les élections libres et la fin du gouvernement d'un seul parti. Cela signifiait que ce plébiscite spontané a définitivement déchu le parti communiste du droit de gouverner la société tchécoslovaque.
Définitivement přišla o právo vládnout nad československou společností.
Dès le 27 novembre 1989, il n'était plus possible de prétendre que les événements de cette période n'étaient que la conspiration des étudiants et des intellectuels isolés de la classe ouvrière. Désormais, il était évident que le changement était souhaité par presque toute la population.
Dans le cadre du Comics Fest, qui s'est déroulé à Prague début novembre, a été inaugurée l'exposition d'une BD un peu particulière. La réplique tissée de la célèbre tapisserie de Bayeux, à l'origine de ce projet colossal, une femme, Věra Mičková, interrogée par Anna Kubišta.
Il y a 5 ans, je me suis rendue à Bayeux avec un ami de Paris. Je n'avais entendu parler de la tapisserie que par l'histoire de l'art que j'enseigne et j'ai été complètement stupéfaite. Cela fait également 40 ans que je fais du tissage. Or, on lit partout que la tapisserie de Bayeux n'est pas une véritable tapisserie, un véritable gobelin. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, pourquoi n'en ferais-je pas, moi, un vrai gobelin ?
Car en effet, si cette œuvre d'art est communément présentée comme une tapisserie, il s'agit en réalité d'une toile brodée et non pas tissée. 3 ans et une moyenne de 12 heures de travail par jour, c'est le temps qu'il aura fallu à Věra Mičková pour tisser quelques 70 mètres de sa réplique de la fameuse tapisserie exposée jusqu'au 30 novembre au musée du Moyen-Âge à Prague dans le couvent Sainte-Agnès. Là, les visiteurs ont pu découvrir pendant le mois de novembre cette bande dessinée médiévale représentant la bataille de Hastings de 1066, bataille décisive qui permit au chef normand Guillaume le Conquérant de s'emparer de la couronne d'Angleterre. C'était d'ailleurs un des objectifs de Věra Mičková en tissant cette épopée. La tapisserie d'origine n'étant pas déplaçable, la réplique permet à ceux qui n'iront jamais à Bayeux d'admirer ce chef-d'œuvre de l'art roman profane. Věra Mičková est une inconditionnelle du Moyen-Âge. Pour avoir mis la main à la pâte, elle a un avis bien précis sur l'auteur de la tapisserie que la légende attribue à la reine Mathilde, la femme de Guillaume le Conquérant.
Ce qui est fantastique, c'est que quand vous commencez à lire et étudier la tapisserie, vous découvrez qu'il y a un courant qui veut que ce soit la reine Mathilde qui l'ait brodée. L'autre courant veut que ce soit l'évêque Odon qui ait fait broder la toile dans le sud de l'Angleterre. Vous pouvez y croire ou pas, mais quand vous commencez le travail de tissage, vous découvrez des choses que vous n'auriez pas vues autrement. Moi, je suis persuadée que toute l'histoire a été inventée par des hommes parce qu'il y a une telle connaissance des mouvements des chevaux, par exemple. Moi, je sens une pensée masculine. Alors peut-être que ce sont des femmes qui l'ont brodé, mais ce sont des hommes qui en ont eu l'idée.
Aujourd'hui, Věra Mičková espère un jour pouvoir également exposer sa réplique en France pour ceux qui, comme en République tchèque, n'ont pas l'occasion d'aller à Bayeux. Après avoir porté le projet de la tapisserie de Bayeux pendant quelques années, Věra Mičková a déjà un nouvel objectif.
On m'a
un peu reproché de ne m'intéresser qu'à la France, parce qu'il existe aussi des richesses dans l'art médiéval tchèque. J'aime beaucoup les fragments de la chronique de Dalimil que les Tchèques ont achetés il y a 3 ou 4 ans lors d'une vente aux enchères à Paris. Ces fragments ont de magnifiques enluminures réalisées dans un monastère toscan. Et donc, je me suis attelée à la tâche.
Věra Mičková a déjà réalisé 7 tapisseries et prévoit encore une petite année de travail sur la chronique de Dalimil.
Voilà, c'est donc avec ce reportage sur la réplique tissée de la célèbre tapisserie de Bayeux exposée à Prague que s'achèvent ces faits événements, mais pas encore le programme en langue française de Radio Prague qui se poursuit avec, comme chaque vendredi, la rubrique économique. Et cette semaine, miam miam, c'est de charcuterie dont il est question.
Économie, commerce. Alexis Rosenzweig.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette émission économique, une émission pour laquelle nous sommes aujourd'hui à un événement spécial organisé par la mission économique de l'ambassade de France à Prague et par la Fédération française des industriels charcutiers traiteurs et transformation de viande venue présenter à Prague les produits français.
Alors je suis Stéphanie Fuiré, chargée d'études économiques au sein de la FICT, la Fédération des industries charcutières à Paris.
Qu'est-ce qui vous amène ici à Prague ?
Donc nous organisons en partenariat avec UbiFrance un séminaire afin de pouvoir aider nos entreprises à exporter et notamment donc sur Prague. Nous organisons donc deux fois par an ce type de séminaire essentiellement en Europe. Par exemple, au mois de juin dernier, nous sommes partis à Vienne. Au préalable, nous étudions donc un marché. Nous envoyons à nos entreprises une étude sur ce marché, les produits susceptibles d'être appréciés par les consommateurs locaux. Et ensuite, ceux qui sont intéressés viennent, se joignent à nous. Donc en général, il faut 10 entreprises pour participer à ce type de séminaire.
Alors, est-ce qu'il y a des particularités de ce marché tchèque ?
Apparemment, oui. Donc, le goût des consommateurs, ils sont très sensibles au goût, au prix, bien évidemment. Mais je pense que les produits français peuvent correspondre à ce que recherchent les consommateurs tchèques.
Alors justement, si vous étiez à Vienne, est-ce que dans des deux capitales qui ne sont pas très éloignées, il y a vraiment des différences que vous pouvez noter dans le marché, dans la consommation, dans les préférences des consommateurs ?
Par exemple, à Vienne, pour le jambon de Bayonne, le consommateur l'apprécie en tranches très très fines. Donc c'est vraiment une spécificité locale. À Prague, ils apprécient beaucoup le saucisson, le cervelas, par exemple.
Vous êtes venu avec des producteurs de cervelas ici ?
Oui, la société Hiller, par exemple, juste en face de vous.
On va aller les voir tout de suite. Merci.
Merci à vous.
Je m'appelle Alain Beck, je suis le directeur commercial donc de l'entreprise Hiller, qui est une entreprise familiale, c'est une PME. On est basé en Alsace, à peu près 25 km de Strasbourg. C'est une entreprise qui emploie aujourd'hui 250 personnes en moyenne. On fabrique 11 000 tonnes de produits par an, des produits de charcuterie alsacienne. On est en plein terroir alsacien. Produits alsaciens, c'est quoi ? C'est tout ce qui est salaison, fumaison, tous les produits d'accompagnement choucroute, soit des Strasbourg, des Francfort, des cervelas, les viandes fumées, les échines, les casselers, les palettes fumées, tous ces produits d'accompagnement de choucroute.
La flamme-cuche qu'on appelle ici tarte flambée.
Exactement, en Alsace on appelle ça tarte flambée. En termes un peu plus germaniques, effectivement, flamme-couronne. Exact. Donc c'est un produit très très typique de chez nous qui se consomme dans toutes les brasseries. Alors plus particulièrement le week-end, on en trouve toute la semaine, mais c'est vrai que c'est un peu la sortie traditionnelle du samedi soir ou du dimanche soir en famille. C'est un plat qui est pas très très cher et c'est la pizza alsacienne en quelque sorte. C'est une pâte très fine.
Alors qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous pensez, d'après les études de marché que vous avez vues, que vos produits ont une bonne chance de plaire aux consommateurs tchèques ?
Alors oui, dans la mesure où le consommateur tchèque est un gros consommateur de produits de porc, nous, notre production, c'est à 95%, c'est du porc, avec des goûts différents peut-être quand même que ce qui se consomme en Tchéquie, on s'est dit pourquoi pas cibler ce marché-là, effectivement, pour vendre quelques-unes de nos spécialités. On a là, au total, une douzaine de produits exposés, mais... Allez, la production globale de chez nous, c'est plutôt une centaine de produits. Mais c'est pas la peine qu'on vienne concurrencer les Tchèques avec les choses qu'ils savent déjà bien faire. On apporte d'autres choses, des choses un petit peu différentes du terroir alsacien. Voilà.
Alors dites-nous ce que vous attendez concrètement d'un tel événement, d'une exposition de vos produits et de la rencontre avec des acheteurs tchèques ou avec des consommateurs directement. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de votre passage ici à Prague?
D'avoir un maximum de contacts qu'on pourra creuser ensuite, quoi. Alors voilà, c'est ça, c'est chercher du contact. On ne connaît personne aujourd'hui ici, alors qu'il soit orienté GMS, hein, pour l'essentiel, c'est quand même là qu'est l'essentiel de notre métier.
Alors mais pour les auditeurs, GMS
C'est tout ce qui est grand magasin spécialisé, c'est-à-dire la grande distribution, les supermarchés. Voilà, les supermarchés. Mais ça peut éventuellement être aussi des restaurateurs, mais des restaurateurs ou des chaînes de restaurants. Peut-être un petit peu de restauration collective aussi. Enfin, disons que l'essentiel, c'est quand même le super hypermarché. C'est là qu'est notre cible. C'est quand même des produits, pour la plupart, emballés en sous-atmosphère contrôlée, des produits qui ont 3 à 4 semaines de durée de vie, donc facile à gérer en fait dans un rayon de supermarché. On exporte déjà en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, un petit peu en Hongrie. Et pourquoi pas la Tchéquie, quoi. Ça fait partie de nos pays cibles. Voilà.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Le jambon de Bayonne, c'est un jambon qui est issu d'un porc plus lourd et plus gras que le standard européen. Le jambon, le porc va être abattu un petit peu plus âgé.
Alors on passe au stand d'à côté et là c'est clair, béret basque et jambon de Bayonne et un monsieur avec un foulard rouge accroché autour du cou. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur, s'il vous plaît?
Bonjour, je suis Pierre-Emmanuel Broteland, je représente le consortium du jambon de Bayonne. Donc là vous avez le sud-ouest devant vous avec l'un des produits phares du sud-ouest, le jambon de Bayonne.
Que vous voulez faire découvrir aux Tchèques?
C'est l'objectif de notre venue ici, effectivement. On a un produit gastronomique de la France. C'est le jambon le plus connu, le plus vendu et le plus aimé en France. Donc là, vous avez des produits qu'on aimerait bien, effectivement, faire découvrir au public tchèque.
Comment ça se passe pour l'instant?
Ben, écoutez, on a un très bon accueil. On a peut-être fait des envieux à côté de nous, parce qu'au début, on avait un stand qui était pris d'assaut par des importateurs, des journalistes qui prenaient beaucoup de photos et qui étaient très intéressés pour avoir de l'information sur ce produit qui est absolument pas connu, hein, effectivement, en République tchèque. Comme je disais, on exporte beaucoup en Belgique, en Allemagne. On commence aussi à exporter un peu au Japon. Très prochainement en Corée du Sud. On a un public là-bas qui est très très fan des produits français. Et donc là, on a un très bon accueil ici. Ça se passe très bien. On est confiant et on est venu avec un producteur de jambon de Bayonne, Jean-Ronan Philippe, des Salaisons de la Dour, qui propose du jambon de Bayonne. Et on espère qu'on va avoir des suites intéressantes.
Est-ce que c'est tout de suite rentable pour vous, un événement comme celui-ci, de venir, de se déplacer à Prague et de présenter ces produits? Est-ce que vous savez déjà qu'en venant ici, au point de vue image et peut-être contrat qui vont s'en suivre, il faut venir ici, il faut tenter le coup?
Alors là, c'est un peu un pari. Hein, on vient ici, on était en Autriche il y a 2-3 mois.
Alors justement, comment ça s'est passé à Vienne?
Alors à Vienne, on a eu un accueil intéressant également. On pense que ce sera un peu plus difficile quand même en Autriche qu'ici, puisqu'ils ont une très grosse, une habitude de consommation des jambons italiens qui est vraiment ancrée dans les habitudes, avec des exigences très particulières. Et là, il faut un gros effort de communication pour introduire notre produit et dire que nous aussi, nous avons notre jambon. Qu'il n'y a pas que le jambon de Parme qui existe, il y a aussi le jambon de Bayonne.
Est-ce qu'il faut faire un effort ici, particulièrement en République tchèque, au niveau du prix, puisque le pouvoir d'achat n'est pas le même qu'en France et qu'en Autriche?
Oui, alors effectivement, ça, on va voir ce qu'on peut faire, hein, sans non plus brader notre produit, puisque c'est clair que le jambon de Bayonne, ça fait partie des produits haut de gamme. gamme. C'est un produit plaisir. C'est peut-être pas le produit de tous les jours. Hein. C'est un produit qu'on va acheter pour une certaine occasion. Donc maintenant, effectivement, on va voir ce qu'il est possible de faire. Jean-Ronan Philippe est ici. Il connaît la situation du marché tchèque. On a eu un point hier lors d'une réunion à la mission économique. Affaire à suivre, hein, on va voir ce qu'on peut faire.
Il est déjà en train de collectionner les cartes de visite, ça a l'air d'aller pour l'instant.
Ouais, c'est bon signe, hein, c'est bon signe.
Merci.
Merci à vous.
Voilà, et c'est déjà la fin pour cette fois du programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet. L'adresse, vous la connaissez très bien, c'est le www.radio.cz. Sinon, n'oubliez pas nos rendez-vous du week-end sur les ondes et profitez-en bien parce que l'avenir de Radio Prague sur les ondes courtes reste toujours très incertain. À très bientôt donc, ahoy.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 y 15.255 kHz. A las 10:30 UTC transmitimos para el Caribe y Sudamérica por los 9.955 kHz a través de la repetidora en Miami. A las 15 horas UTC transmitimos para España por los 11.600 y 13.580 kHz. A las 19 UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 y los 9.430 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y los 9.430 kHz. Y a las 21:30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 y los 9.435 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930, los 7.345 y los 7.420 kHz. Esta última frecuencia a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A la 1:30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 6.200 y 7.300.